France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, c'est l'heure de l'apéro avec le réalisateur qui incarne tellement le film politique. C'est Costa Gavras. J'espère que vous êtes aussi impatient que moi.
Bonjour.
Bonjour Costa Gavras.
Bonjour madame.
Comment allez-vous?
Ça va bien, ça va bien.
Ou devrais-je dire Constantin?
Costa ou Constantin, oui.
Qui vous appelle encore Constantin?
Appelez-moi, j'aime bien Constantin.
Constantin, ouais.
Oui.
Allez, on va partir. Alors, vous achevez la tournée d'avoir présenté votre film dans les salles?
Oui, je viens de Strasbourg. On a présenté hier soir le film.
Et alors?
Ah, très bien, très bien. Une longue discussion après avec les gens très intéressés, voilà.
Le sujet est passionnant.
Le sujet est passionnant, je trouve aussi. C'est pour ça que j'ai fait le film.
Mais oui. Venez, on va en parler. C'est l'heure de l'apéro, cher Constantin.
Charline Vanhoenacker.
Je vous en prie, après vous.
Bistroscopie sur France Inter.
Alors, cher Constantin, je vais vous appeler Constantin tout le temps, j'adore. Je trouve ça trop joli. Avec le dernier souffle qui sort en salle mercredi, vous offrez votre 21e film, me semble.
20e, entre 20e et 21e.
Ah,
20e, essentiellement.
20e, oui. Très bien. Donc, vous avez 20 ans, c'est ça?
Vous avez raison. Nous, metteurs en scène, on compte la vie avec le nombre de films.
Ah, c'est voilà, ça. C'est bien.
Mais enfin, il se trouve que j'en ai beaucoup plus. Enfin, ouais. Physiquement.
Physiquement, vous pensez? Ouais. Mais en revanche, vous êtes beaucoup plus jeune que Claude Lelouch, qui doit avoir entre 50 et 60 ans.
Oui.
Parce qu'il a fait autant de films. Et vos premiers pas à Paris, Costa Gavras, c'est en tant que danseur. Ça, oui, m'a épaté, ça.
Oui, oui, je suis arrivé à Paris la première fois avec un groupe grec, des danses folkloriques grecques, et nous sommes passés aux Champs-Élysées pendant une semaine. Et c'était un gros succès, voilà. Et c'était une première rencontre avec Paris. J'avais déjà eu une, parce que je voulais faire des études. J'avais envoyé à travers le consulat de France à Athènes, j'avais envoyé un dossier. Et je suis arrivé, j'étais visité la Sorbonne, et j'étais très content de voir que c'était un lieu où on allait m'accueillir. Voilà.
Ah, vous êtes devenu en repérage, en fait, comme un réalisateur.
En quelque sorte, oui.
Donc danseur, et aussi un peu chorégraphe, non? Vous aviez aidé à chorégraphier le ballet?
Oui, pendant un moment, j'ai dirigé le ballet, c'est ça, parce que les premiers danseurs étaient partis au théâtre, faire des pièces au théâtre, ouais. Et on m'avait chargé de faire la chorégraphie qui existait déjà, mais enfin, pour l'améliorer, et préparer les danseurs, surtout.
Ça, je me disais, vous avez un physique de danseur, je trouve. C'est vrai, hein. Et par exemple, à Cannes ou au César, vous chauffez la piste, alors? Comment? Vous avez toujours aimé danser?
J'aimais tout danser, mais pas les danses comme ça en piste. J'aime bien voir les danseurs sur scène. Et je trouve que c'est merveilleux. Et que ce soit la danse moderne, et que ce soit la danse classique, je trouve que c'est des moments magiques.
D'ailleurs, il y a quelques-uns de vos films qui se finissent un petit peu en dansant.
Oui.
Et celui dont on va parler en chantant même. Encore une question avant de parler du film, Constantin. Ce voyage en France était donc un premier repérage avant de vous installer. Mais alors, l'enfance et l'adolescence en Grèce, elle a été marquée par quoi pour que vous ayez eu envie
de... Elle a été marquée d'abord par la guerre. On nous a envoyés à la campagne parce qu'à Athènes, les gens mouraient de faim. Et elle a été marquée davantage parce que mon père a fait la résistance avec les mouvements les plus importants de gauche qui étaient dirigés par les communistes. Et après la guerre, ceux qui étaient communistes ou considérés comme communistes, leurs enfants ne pouvaient pas faire des études. C'était interdit. Donc, il fallait fournir un certificat comme quoi la famille avait des bons sentiments royalistes. Et mon père était très contre le roi. Alors on a passé quelques années très difficiles. Parce que le père a été envoyé un peu en prison, un peu aux îles, un peu... Et c'est la mère qui faisait le travail. Et comme j'étais le premier, le plus âgé, de trois enfants, j'étais à côté d'elle, je faisais l'homme de la famille. Voilà. Enfin, j'avais 12, 13, 14 ans. Voilà, ça.
Votre père envoyait en prison, et vous disiez dans les îles, c'est ça que vous avez dit?
D'abord dans la prison à hauteur d'Athènes, et après dans les îles, c'était des gens qu'on éloignait d'Athènes, comme ça, il y avait des espèces de camps dans beaucoup d'îles, remplis de gens qui ne passaient pas comme le gouvernement, d'abord. Oui, oui, c'était pour lui une vraie torture, finalement, parce qu'il n'y avait pas des tortures vraies, il n'y avait pas des pressions énormes, mais il était loin de sa famille. Il savait que sa famille, trois enfants et sa femme, ma mère, vivaient des moments très, très difficiles. Ma mère, il a fallu qu'elle fasse le ménage, etc., pour avoir assez d'argent. C'était une période très sinistre.
et qui a irrigué votre œuvre, Costa Gavras, évidemment. Le 20e film, enfin on a dit entre 20 et 21, c'est Le Dernier Souffle, avec Denis Podalydès, Cadmerade, et notamment aussi Charlotte Rampling, Yamabas ou Karine Viard. C'est l'adaptation du livre de Régis Debray et de Claude Grange, qui est médecin. Cadmerade, lui, il est médecin en soins palliatifs. Denis Podalydès est le philosophe et écrivain. Et ils vont dialoguer pendant tout le film, tout en croisant des patients en fin de vie, ainsi que leur famille, leur entourage. Et l'écrivain, joué par Denis Podalydès, réfléchit à sa propre fatalité. Et le praticien, Cadmerade, l'aide sur ce chemin. À travers le personnage de Denis Podalydès, l'écrivain, c'est nous, le spectateur.
Oui.
C'est vous aussi, c'est nous tous.
Oui, c'est nous tous. Mmh. Avec un regard tout particulier pour le philosophe, c'est qu'il souhaite écrire un livre et parallèlement, il a un petit problème. Le problème, c'est qu'il connaît lui et sa femme, mais qu'il ne dit pas au docteur. Mmh. Mais nous, spectateurs, nous le connaissons.
Il a passé un scanner.
Voilà, il a passé un scanner, il a découvert une chose qui peut un jour s'ouvrir, lui poser des problèmes très sérieux. Alors il a un regard sur ce parcours qu'il fait parmi les patients, le regard de l'écrivain naturellement, et aussi de l'éventuel malade. Voilà. Donc c'est trouve une situation très intéressante pour un acteur et aussi pour l'histoire même. Parce qu'on regarde ce qu'il découvre d'une autre manière que s'il n'avait pas ce problème-là.
D'ailleurs, au début, on est angoissé comme le personnage de Denis Podalydès. Et au fur et à mesure, on se détend et on finit tout détendu du film.
Oui, oui, peu à peu, parce qu'il commence à réfléchir philosophiquement, si je puis dire, et dire, voilà, ça arrivera un jour. Donc il faut se calmer, il faut dédramatiser surtout, et il faut accepter ce fait qui appartient à tout le monde, qu'on le veuille ou non, et que donc il devient philosophe. Et de temps en temps, il pense aussi à son problème. Et tout d'un coup, il devient éventuellement malade. Voilà, et cette situation-là fait qu'on se trouve dans deux situations, plutôt un peu dramatique, mais aussi assez légère à la fois. Voilà, c'est ça, oui.
Mais il faut aussi pouvoir affronter ce sujet. Et vous, dans votre filmographie, vous avez toujours affronté les sujets. Ici, c'est aussi le réalisateur qui est obligé d'affronter sa propre finitude.
Oui, d'autant plus que c'est aussi mon problème de plus en plus, puis j'arrive à un âge où ça s'approche, cette chose-là. Et il faut être prêt, je crois. Et pour être prêt, comment ? On ne sait pas comment ça arrive, on ne sait pas quand ça arrive, mais je pense que si on dédramatise, on arrivera, on affrontera avec dignité et une certaine paix. C'est ça qui me semble important. Mais aussi pour ceux qui restent, parce qu'eux aussi, ils sont dans le deuil, dans l'angoisse, dans la peine. Donc il ne faut pas ajouter à la peine de la peine et de l'angoisse.
Dans les années 70, en relisant quelques-unes de vos interviews, Constantin, vous déclarez que la vieillesse et la mort vous angoissent. Alors, est-ce que ce film, il vous a détendu ?
La vieillesse et la mort de tout, il n'y a plus rien. Peut-être pour ceux qui croient qu'il y aura autre chose après.
Non, mais dans les années 70, vous dites déjà, ça m'angoisse.
Ah bah oui, bien sûr, mais on s'angoisse depuis qu'on est petit. C'est une menace, on me dit, tu vas mourir. Donc c'est la pire des menaces. On vit avec cette terreur depuis qu'on est petit. Et il faut se débarrasser, dédramatiser, à mon avis, cette terreur, pour essayer d'arriver à l'âge où ça va se produire d'une manière beaucoup plus détendue.
Qui vous a dit tu vas mourir quand vous étiez plus jeune ?
Tout autour de nous, il y avait la mort sans arrêt. Il y a la menace aussi. Si tu fais ça, tu vas mourir.
C'est-à-dire le contexte.
Même dans l'abstrait, oui.
Le contexte de l'époque, peut-être de...
Mais ça l'est tout. Le contexte de l'époque était beaucoup plus pur. Parce
vous
que
êtes
les
né
gens...
en 1933, vous avez traversé les plus grandes rigueurs du siècle.
La guerre, l'occupation, la guerre civile en Grèce et tout cela. Mais je pense que cette menace-là, elle est permanente. Et puis les enfants, quand ils entendent parler de mort, c'est déjà un début de terreur.
Oui. Alors est-ce que c'est cathartique, ce film, au sens de la tragédie grecque ? C'est-à-dire d'affronter les choses et de les voir devant ses yeux pour purger les choses.
Absolument, ouais. Absolument, parce que, et c'est pour ça que j'ai fini presque le film, pas tout à fait à la fin, mais un peu avant, j'ai créé une sorte de cœur à la tragédie, oui, avec une chanson de Prévert, et avec des chanteurs, enfin un groupe de gitans, parce que j'ai voulu un groupe comme un cœur. Et les groupes aujourd'hui sociaux n'existent pas. Il n'y a que les gitans qui vivent en groupe.
C'est vrai, c'est difficile de trouver un cœur aujourd'hui.
Très difficile, oui. C'est difficile qu'ils ont ces espèces de sentiments très proches de l'un de l'autre. L'affection, l'amitié, peut-être aussi la haine aussi, mais enfin, ils ne la montrent pas. Et voilà, donc j'ai trouvé eux. Et j'ai trouvé une petite fille qui fait une très belle chanson. De Prévert, bien sûr, la chanson, elle la chante.
Avec la musique de Cosma.
Avec des musiques de Cosma et de mon musicien. Ouais. qu'il a adapté. Armand Amar a adapté parce que la musique de Cosma est liée au poème de Prévert. Ah, c'est une chanson magnifique parce qu'il faut la chanter, en tout cas il faut la lire, parce qu'ils disent tout ce qu'il faut sur la vie et la mort. Elle est très simple.
C'est comme une comptine.
Bien sûr, des escargots qui partent à l'enterrement d'une feuille morte, et quand ils arrivent, parce que les escargots ne vont pas très vite, les feuilles sont de nouveau vertes. La vie est revenue, voilà. C'est merveilleux.
Vous avez spoilé la chanson.
Non, Prévert, je pense que les gens la connaissent.
Oui, évidemment.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Alors, ce choix de Kad Merad dans Le médecin, le praticien en soins palliatifs. Kad, un acteur très fédérateur, figure idéale même du toubib en soins palliatifs. C'est par lui que vous passez pour rendre cinématographique ce thème de la fin de vie ?
Absolument, parce que j'ai fait la fin de vie et la vie, pour ceux qui sont autour. Eh bien, oui, parce que je pense que Kad, il a cette qualité, cette humanité forte. Il l'utilise beaucoup dans les films, dans un autre registre. Moi, j'ai demandé de l'utiliser dans le registre de quelqu'un qui est docteur, qui est calme, qui est prévenant, qui est affectueux avec les gens.
Rassurant,
absolument, parce qu'un médecin de soins palliatifs est tout à fait différent par rapport au médecin des hôpitaux, par exemple. Par exemple, à l'hôpital, vous y allez, les docteurs restent debout, ils vous expliquent ce qu'il faut faire. Dans le soin palliatif, les docteurs se mettent à votre hauteur, s'assoient à la hauteur des patients. Ils leur parlent, ils les touchent. Enfin, il y a une relation tout à fait, je dirais, comment dire, affective. Et comme ça, les patients ne se sentent jamais seuls. Et puis, il y a les infirmières et infirmiers. Et j'ai choisi des vraies infirmières et infirmiers qui travaillent dans le soin palliatif parce que c'est les seuls qui ont le geste particulier. Voilà. Et les docteurs aussi, les deux ou trois docteurs qui visitent aussi, ce sont des vrais docteurs.
Mmh. Voilà. Que vous avez fait jouer dans le film.
Non, il est important de s'approcher le plus possible de la vérité de ce lieu qui a été créé il y a plusieurs années et qui est un lieu absolument, absolument indispensable, je pense, pour la société.
Alors, Kad Merad, qu'on connaît évidemment comme humoriste, comme Gad Elmaleh dans Le Capital, comme José Garcia dans Le Couperet, je dirais que plus
comme
loin...
Jack Lemmon dans Missing.
Oui. Voilà. Et d'ailleurs, on va plus loin que le contre-emploi à chaque fois avec eux, parce qu'on utilise facilement ce mot contre-emploi, mais vous-même les politisez, en fait, ces humoristes. Quel effet vous cherchez sur le spectateur en allant les chercher dans ces rôles-là ?
Non, ce n'est pas un effet, c'est chercher une relation toute particulière que a le metteur en scène avec l'acteur. Et quand on demande à l'acteur de sortir de son habitude, c'est encore plus intéressant, parce qu'on crée ensemble un troisième personnage qui est celui du film. Mais il faut qu'il accepte, il faut qu'il ait envie aussi de faire autre chose et de le faire autrement que d'habitude. Et j'ai eu la première expérience avec Jack Lemmon en Amérique, quand je lui ai proposé. D'ailleurs, la compagnie à l'époque Universal m'a dit « Mais qu'on fait un film comique ?» Il dit non. Et puis finalement, il a accepté. Et Universal, malgré ses oppositions, était ravi. Et moi aussi, parce que Jack était formidable dans le film. Il a eu le prix à Cannes, il a eu plein de prix ailleurs, etc. Et alors, je l'ai continué après, je l'ai fait avec d'autres acteurs et avec Kad cette fois-ci, qui aujourd'hui voulait absolument travailler dans le film, et avec moi et avec Podalides. Et il avait quelques hésitations au début, et finalement, il s'y est mis et on a créé ce personnage du docteur, que je le trouve admirable parce qu'il a un talent caché. Parce que Kad aime beaucoup exploser, je dirais. Improviser.
Oui.
Improviser, il improvise pas dans la scène, et il rallonge la scène d'une manière très personnelle, scène du cinéma. Et c'est fascinant, il le fait au théâtre aussi. Et il est fascinant. Mais ça ne correspondait pas à mon personnage, voilà. Et il a accepté, et je le trouve vraiment très très bon. Enfin, c'est au spectateur de décider, mais...
Il est excellent. Oui, oui. Vous avez dû le cadrer.
Ah oui.
Fallait le canaliser, quoi.
Oui, je pense qu'il était, ravi après d'avoir fait autre chose qu'il fait d'habitude.
Ah, mais il est épatant dans ce rôle, vraiment.
Oui.
Charlie Chaplin disait que l'homme n'est jamais aussi drôle que devant la mort. vous êtes d'accord ? Vous avez joué un peu de ce contraste ?
Oui, je trouve que c'est un point de vue formidable de Chaplin, parce que, vous voyez, je pense qu'un des plus grands metteurs en scène, c'est Chaplin. Il y en a d'autres à cette période du muet. Mais Chaplin, c'est le plus grand. Pourquoi ? Parce que Keaton et les autres, ils jouaient avec la mécanique de la vie. Chaplin jouait avec le cœur et la tête, liés les deux. Dans une espèce de vision de la société, vraiment avec grande tendresse, et parfois une grande peur. Et c'est le seul, je crois, moi.
Et est-ce que mourir de rire, c'est une option pour finir?
Je ne sais pas, oui, ma femme. C'est plus une expression qu'une option. Hein.
Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait mourir de rire, vous?
Ah, il y a plein de choses. Ouais. Cadre, parfois, ou d'autres choses. Chaplin, pas de Chaplin, Buster Keaton aussi, et puis quelques comiques actuels, oui, formidable. Et j'aime beaucoup ça.
Pour les actrices et les acteurs, notamment Charlotte Rampling ou Yama Bass, qui soit incarne la malade ou l'entourage du malade, bon, faut aussi affronter le jeu de la mort.
Oui. Non, je disais aussi Marilyn Canto aussi, et puis oui, absolument.
Ouais. Alors, si on en croit Chaplin, vous avez beaucoup ri sur le tournage?
Ah, on a ri parfois, souvent, on a ri, oui, absolument. C'était une ambiance plutôt gaie et légère.
Vous avez, vous, affronté la disparition de proches, évidemment, notamment Montand, Signoret.
Beaucoup, tous les... Ouais. On peut dire que mes collaborateurs des premiers films, ils sont tous disparus.
Ils sont disparus.
Et voilà, ça sera mon tour. Donc, je me suis dit, il faut dédramatiser.
Oui, je me demandais si, aussi avec Jorge Semprún ou Chris Marker, vous aviez accompagné un peu leur fin de vie.
Oui.
À l'un ou à l'autre.
Oui, un peu, oui. Mmh. Un peu. Un peu. C'est des moments très tendres, c'est des moments inquiétants, c'est des moments... Il n'y a plus de sentiments humains qui ressortent, notamment des rires aussi. Il y a un faux mot, un faux geste, etc. Ça vous fait déclencher le rire, et puis on revient à la situation. Parce qu'il y a un besoin, je trouve, de deuil. Des deuils pendant qu'on est encore vivant. Voilà, qu'on sait que ça va finir. Il faut commencer le deuil, je crois.
De préparation, vous voulez dire. On se prépare, ouais. Et vous pensez qu'ils ont peur de quoi, les gens qui sont contre l'euthanasie?
Je ne sais pas. Je sais pas. Là, on rentre dans un moment purement politique. Et si vous voulez, il y a en ce moment une grande discussion dans le pays à propos des lois à faire ou de ne pas faire. Et pour vous dire la vérité, je ne vais pas mêler de ça. Parce qu'il faut que les hommes politiques responsables s'en occupe et trouve des solutions. Mais je pense, alors comme citoyen, que la voie qu'ils ont prise, ce n'est pas la bonne. Il faut faire pas une loi, plusieurs lois.
Parce que notre Premier ministre, il n'a pas l'air pour non plus, personnellement.
On verra. Voilà. Il hésite.
Faut qu'il voit le film, en fait.
Peut-être, oui.
Appel à François Bayrou. Appel à toutes les voitures, déjà. Le dernier souffle de Costa Gavras. Comment on trouve des financements? Même si on s'appelle Costa Gavras, écoutez, pour un film sur la fin de vie.
Je vais vous dire, quand le scénario est écrit, je l'ai envoyé aux acteurs. Ils ont tous accepté immédiatement et avec vraiment enthousiasme. Et puis avec ça, ma productrice, qui est ma femme depuis près de 55 ans, elle a fait les distributeurs,
avec
tout
un
ça.
Casting
et
de
la
fou.
Télévision. Refus total. Refus. Juste un qui a accepté après longue discussion. Bag Film, ils ont accepté d'aider les distributeurs, parce qu'ils avaient le scénario, et voilà, ça partit doucement. Mais les télévisions, jusqu'aujourd'hui...
Donc ça, c'est une question politique aussi. Si déjà les télévisions refusent, politiquement,
non,
c'est déjà...
Je ne vais pas les accuser. Je pense que la politique, c'est qu'économiquement, ils pensaient que ça ne pouvait pas marcher. Voilà.
À la politique, c'est économique, de toute façon.
Bon, forcément. On va raconter des histoires, ce n'est que ça. Enfin bon, voyez ce qui se passe en ce moment. L'homme qui a le plus d'argent... Ben, il fait ce qu'il veut, dans le monde. Voilà. Je ne vais pas dire son nom, hein, parce que c'est...
Mais je ne vois pas de qui vous parlez, en plus. Donc, La difficulté de trouver des financements, donc vous devez demander aussi aux acteurs de faire des efforts.
Oui, oui, absolument. La productrice a fait des efforts dans tous les sens. Il y a un système en France qui permet de baisser les salaires de tout le monde. Et si le film marche, il récupère ce qu'il faut. Si le film ne marche pas, bah, ils perdent tous un peu d'argent. Et cet effort-là a été accepté par tout le monde, même par ceux qui louent des espaces pour faire le film, des maisons, des hôpitaux, etc. Donc ça a été une aide formidable et on a fini par faire le film dans des conditions bonnes pour la qualité du film.
Oui.
Mais un tout petit peu en serrant sur tout le reste.
Costa Gavras, donc l'euthanasie, pour conclure, c'est le choix de mourir debout, en fait?
Je ne sais pas ce que c'est que l'euthanasie. Je pense que la meilleure façon de mourir, c'est de finir mourir dans les meilleures conditions possibles.
C'est l'aide à mourir dans la dignité.
Dans la dignité, autant que possible dans la paix, mais pas seulement pour le partant, mais aussi pour ceux qui restent. Pour laisser aussi un moment, un souvenir de qualité et de dire presque de plaisir. De plaisir, je mets entre guillemets, dire voilà, quand on dit « Ah, il est parti bien ». Voilà. Et rester avec ça par la suite, avec toute la peine qu'on peut avoir, les bonnes choses qu'on peut dire sur lui ou sur elle, c'est ça qui, à mon avis, c'est une bonne façon de partir.
On dit parfois qu'au moment de mourir, on voit toute sa vie défiler. Vous, vous allez revoir toute votre filmographie.
Écoutez, je vous le dirai après, venez m'étudier après.
Ah, je viendrai vous retrouver, Constantin. Ça, c'est sûr.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée au bistrot avec Constantin, mon nouvel ami.
Bonjour.
Costa Gavras. Votre film Le Dernier Souffle sort en salle mercredi avec Can Merad, Denis Podalydès. Il y a aussi Charlotte Rampling, Yama Bass,
Karine Viard et autres, Marilyn Canto, etc.
Vous devez votre éducation politique à Montand et Signoret. Est-ce que c'était une bonne école?
C'était une très bonne école. Disons aussi qu'ils étaient un tout petit peu préparés par des aventures personnelles et familiales. Donc ils m'ont accueilli vraiment admirablement bien. Et j'ai fait partie de ce groupe-là, qui n'avait pas que, il y avait d'autres. Et quand ils discutaient politique, ils prenaient de la distance un peu. Ils observaient. J'avais appris ça, d'ailleurs, quand j'étais déjà étudiant. Observer plutôt qu'entrer dans la bataille. Et ça donne, sans perdre son jugement naturellement, mais ça forme un autre jugement que la violence et que le fanatisme, par exemple, ou cette idée ou l'autre idée. Voilà. On voit le monde autrement.
Et lequel de Montand, Semprun ou Marqueur a été votre BFF?
Mais un peu tous, chacun différemment.
Ouais.
Montand peut-être, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, on a fait 5 films ensemble, donc les relations étaient devenues très proches, familiales même. Semprun, c'est un grand penseur, il avait des très beaux livres, il avait été aussi communiste très longtemps, il avait même rencontré Staline comme assistant du chef communiste espagnol, après il l'a quitté évidemment. Et puis Marqueur, c'est un homme extraordinaire, par sa distance de tout, et par ses jugements très justes et courts. C'est admirable.
C'est alors cette éducation que vous avez eue avec eux, politique, je veux dire, Montand s'ignorerait, c'était aussi bien que l'ENA, visiblement, parce qu'on vous a proposé d'être président de la République en Grèce. Je me suis dit, mais qui propose? C'est Pôle emploi? Le Pôle emploi de Grèce?
Oui. C'était qu'il y a 5 ans, hein. Donc on ne peut pas accepter. Mais... Non, mais c'était une plaisanterie, ils ont insisté, oui. Je trouvais ça un peu absurde, il faut dire.
Attendez, c'était une plaisanterie, mais si vous aviez dit oui, ça... C'était...
Non, j'aurais jamais dit oui, vous savez, oui. Moi, j'avais un métier qui me plaisait beaucoup.
Z est considéré comme le premier grand film politique français.
Bof.
Vous êtes pas...
Les modes politiques.
Ouais. Moi, vous dites tous les films sont politiques, vous
exactement.
Avez fait un livre avec Edouard Plenel à ce sujet, d'ailleurs.
Ben voilà, exactement. Ouais. Exactement.
Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé avec Z, c'est-à-dire qu'avant, les films politiques étaient plus militants, un peu underground, etc. Z a eu un grand succès. Et donc le succès de Z, il y a un avant et après le film politique quand même. Le film politique peut devenir presque mainstream, en fait.
Oui, pour une raison que nous n'avons pas, avec Jacques Perrin qui a produit le film, on n'avait pas pensé à ça. On a pensé de faire un beau film sur des militaires grecs qui prenaient le pouvoir pour sauver la Grèce. Du communisme, ce qui est une absurdité. Le communisme était déjà sur la dérive.
C'est fou parce que c'est l'histoire d'un député grec.
C'est ça, un député grec.
Et en fait, ça a fait un carton en France et même un carton mondial.
Oui, parce que c'était un député digne qui pensait à la liberté de son pays, à l'économie de son pays, etc., sans intervention étrangère, notamment l'intervention américaine qui dirige d'une certaine manière la Grèce. Et voilà, c'était ça. Et puis aussi, sorti des fanatismes politiques. L'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême ceci, l'extrême de là, ils disaient non, trouvons une ligne.
L'extrême
centre. Oui, absolument, l'extrême centre. Ça existe aussi. Bien. Voilà, c'était ça l'histoire. Et je pense que beaucoup de monde sont réunis, beaucoup d'hommes politiques sont plutôt trouvés dans ce personnage-là et dans sa façon d'être.
Parce qu'en 69, vous dites, vous expliquez le succès aussi en disant on applaudit à tout rompre les héros de gauche malmenés par les nervis fascistes. Je me suis dit, mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas les nervis fascistes qui sont applaudis?
Ils s'approchent de plus en plus. Écoutez, on a un exemple qui vient d'être élu, qui nous vient d'Amérique, comme beaucoup de choses, mais ce n'est pas la meilleure des choses qui nous vient d'Amérique en ce moment. Alors voilà, nous sommes en plein fascisme. Quelqu'un, on n'aurait jamais osé imaginer un personnage qui vient au pouvoir, une grande force mondiale, et qui dit, moi, je vais piquer cet État... Au Groenland, par exemple, j'ai Panarin, etc. On se trouve. C'est incroyable.
Et transformer Gaza en Saint-Tropez.
Et après, faire la Côte d'Azur à Gaza. Voilà, après l'avoir détruite complètement. Non, mais c'est des situations complètement ubuesques, enfin. Alors,
mais vous qui avez souvent anticipé les choses, parce que très intéressé par la politique, l'histoire, etc., vous êtes dans un état de sidération ou vous arrivez à penser la chose qui nous arrive, là ?
Non, je ne suis pas en sidération. La sidération, ça mène à rien. Je pense à la chose qui arrive. C'est l'humanité. L'humanité n'a jamais été en paix, tranquille et sans bagarre et sans tuerie. Mais là, on arrive à des points que peut-être on n'a jamais atteints, vu aussi civilisé que nous soyons en ce moment. Parce qu'il y a ça aussi. Avant, il n'y avait pas la civilisation, il n'y avait pas la connaissance, il n'y avait pas l'information qui circulait d'une minute à l'autre partout. Aujourd'hui, on l'a, on sait. Les situations comme celle d'occupation ou de colonisation, on l'apprenait des mois après. Donc là, on le sait le lendemain, sinon immédiatement. Donc, et les réactions aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer avec ce que propose monsieur. Enfin, on est rentré dans un autre, on s'éloigne du film, mais il y aura beaucoup de morts, je crois, avec ce qu'il propose, monsieur.
Mais aussi, il n'y aurait pas tant, je trouve, malheureusement.
Mais ouais. Il y aura les vacances à Gaza, ce qui sera vraiment une consolation.
Oh là là. On peut pas imaginer. J'avais presque envie de vous dire, venez, je pars en vacances avec vous, mais on n'a pas envie.
Non,
mais
il ne faut pas imaginer, c'est là. Il faut regarder.
Oui, il faut regarder et résister, évidemment. Il y a 10 ans, dans À voix nue sur France Culture, vous disiez... La démocratie aujourd'hui, et là on était en 2014, hein, est moins forte que l'argent et le capitalisme. Est-ce que vous remplaceriez moins forte par un autre qualificatif aujourd'hui ?
Non, mais aujourd'hui c'est les milliardaires qui dirigent. Que ce soit en Amérique, alors c'est évident, et un peu aussi chez nous. Regardez pour vous, journalistes. Un milliardaire a acheté une école de journalisme. Pourquoi ? Parce que vous fermez des journalistes qui parlent d'eux, qui parlent bien d'eux, pas mal, qui ne critiquent pas. Donc, ce n'est pas une prophétie, hein, c'est l'évolution de la société comme elle était à l'époque. On les voyait un peu en avant, mais ça venait très vite et c'est arrivé.
Mm-hmm. Et en le voyant arriver, on ne pouvait rien faire.
Si, on peut faire des films, les journalistes sont libres, qui peuvent en parler, etc. Mais il faut quand même que ça arrive au peuple, que ça arrive aussi aux gens qu'on élit au pouvoir pour qu'ils puissent résister. Mais l'économie est devenue telle que c'est très difficile pour les hommes politiques de résister aussi. Mm.
Edith, vous avez dîné avec Salvador Allende,
oui.
Le leader chilien,
oui,
qui a été assassiné.
Oui.
Mais
oui.
C'est lui qui a voulu vous rencontrer.
Oui, parce que je suis allé au Chili, parce qu'on disait qu'on interdisait l'aveu, et je l'ai vu, on a discuté 3 fois, et c'était un homme que j'admire toujours, parce qu'il avait une vision du monde tout à fait différente de celle qu'on lui reprochait d'avoir. Parce qu'il avait réuni des forces contraires, les communistes avec les socialistes. Et ce qui est admirable avec lui, c'est quand Pinochet a commencé le coup d'État, on l'appelait de partout pour lui dire « Venez chez nous, on vous envoie un avion des pays démocratiques ». Il a dit « Non, je reste là où le peuple chilien m'habille et peut-être je vais mourir là ». Alors il est resté et il est mort là, au palais présidentiel. C'est admirable.
C'est une fin de vie aussi.
Oui.
Et Yasser Arafat, au moment de Anaka, est-ce que vous l'avez croisé ou pas ?
Oui, je l'ai croisé une fois comme ça pour dire bonjour, parce qu'il voulait voir le film et il n'a pas pu le voir. Naturellement, il n'y avait pas les conditions. Mais lui aussi, je trouve que c'est un personnage très intéressant. À partir du moment où il est parti du terrorisme, et il s'est éloigné, et il a fini finalement par être le chef des Palestiniens et avoir fait la paix avec Yitzhak Rabin, le patron d'Israël. Et ils sont devenus amis. Et ils ont proposé même une solution. Et bon, Yitzhak Rabin a été tué, pas un assassin, et puis tout ça s'est détruit, et on est arrivé là où c'est aujourd'hui.
Il y a encore des grands leaders de ce monde qui demandent à vous rencontrer, parce qu'on aimerait bien avoir des noms, si c'est ça.
Peut-être rencontrer le pape, pour lui dire, écoutez, faites quelque chose.
Ouais. Comment on résiste aujourd'hui, Costa Gavras ? Est-ce qu'on résiste différemment d'avant ?
Non, nous avons passé une époque, après la guerre, avec un espoir formidable, malgré la guerre froide, etc. On pensait que le monde allait une sorte de, pas paradis, mais d'arrangement des choses graves pour faciliter la vie et le progrès, et la culture. Eh bien, ça a duré un moment, et puis tout d'un coup, ça a commencé à décliner. Et je pense que pour les jeunes aujourd'hui, il y a une grande peur, quel sera l'avenir ? Donc il faut résister autrement aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, on résistait en prenant plus de choses, en essayant de faire des choses bien, etc. Mais aujourd'hui, on pense beaucoup à son propre futur, et ça, c'est pas très bien.
Et la manière dont les jeunes résistent aujourd'hui, avec les nouveaux outils, avec leur activisme...
Avec des refus, parfois avec le racisme, malheureusement, des jeunes qui sont racistes. Parfois aussi en faisant des espèces de groupes, des petites tribus. Mais c'est pas bon, les tribus. Il ne faut pas avoir une société tribale, il faut une société unie, dans son ensemble, autant que possible. Voilà. Donc tout ça, c'est des signes négatifs dans notre société aujourd'hui. Et pour les jeunes, ça n'est pas un avenir très, très, très clair. Mais je pense que, comme toujours, il y a des très mauvais moments pendant l'occupation allemande et la tuerie et l'extermination des Juifs. Vous pensez que tout était fini, etc. Non, ça s'est arrangé. Je pense que voilà. Je pense qu'ici aussi, mais il faut être patient. Il faudra peut-être beaucoup de temps, attendant que M. Trump soit remplacé par quelqu'un de moins riche.
De moins riche.
De moins milliardaire, ah ouais. Je dirais. Oui, moins milliardaire, non. Laissons la richesse de côté. C'est plus la richesse qui compte. On parlait de la richesse avant. Il est riche ici, il est riche là. Non, maintenant, c'est les milliardaires, vous savez.
Ouais. Oui, bien sûr. Mais donc, ça voudrait dire que résister, c'est pouvoir s'unir.
Pouvoir s'unir et commencer personnellement déjà. Résister par la personne, avec des amis, et peut-être ça peut s'élargir.
Cher Costa Gavras, le film Le Dernier Souffle sort mercredi en salle. Nous serons le 12 février, la veille de votre anniversaire. Donc, je vous souhaite un bon 21 ans.
Merci. J'aurais souhaité qu'il ne sorte pas aussi près de mon anniversaire.
Ah, c'est vrai ? Pourquoi ?
Mais oui, parce que vous savez, vous vous rendez compte si les filles ne marchent pas. Quel cadeau !
Non, ça va marcher. Ça va marcher. J'encourage tout le monde à aller le voir parce que...
Vous avez raison.
Il est très beau, il fait beaucoup de bien et j'espère qu'il va peut-être changer les choses au niveau de la loi, pourquoi pas. Le dernier souffle soit le premier souffle d'une nouvelle loi. Voilà.
Voilà. J'espère. Mais enfin, moi je pense au film, mais je ne pense pas à la loi.
Je comprends.
Ils auront du problème avec la loi, je crois. Ouais.
Merci, cher Constantin.
Merci à vous.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Julien Girard à la technique, à Rémi Sistiaga au mixage et à Noémie Boncourt à la documentation. Merci aussi à Ophélie Vivier, chargée de programme qui m'aide à préparer cette émission, à François Audouin à la réalisation. Toute l'équipe et moi-même, on se retrouve samedi prochain à 19h20.